Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler avec un invité de la gratuité des transports en commun. Et avec moi en face du studio, Patrick Lemoyle. Bonjour Patrick.
Bonjour. Merci de l'invitation.
Et qui est donc l'un des responsables de l'Union pour la gratuité et le développement des transports. Donc Union pour la gratuité et le développement des transports. Donc première question donc à notre invité, pourquoi réclamer la gratuité des transports? Ce sera ma première question.
Les transports, c'est devenu dans les sociétés dans lesquelles on vit une question absolument vitale. C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui peut vivre en utilisant simplement la marche pour travailler, manger, se distraire, etc. Toute la société est structurée sur les transports et principalement sur la voiture. Bon. Et donc, le fait de permettre à chacun et chacune de pouvoir vivre normalement, se nourrir, étudier, travailler, se distraire, aller voir des amis, etc., en utilisant des transports en commun efficaces et de libre accès, est une question absolument décisive. Bon. Et ça a une importance à plusieurs niveaux. D'une part, le fait que les transports, aujourd'hui, étant tellement structurés par la voiture individuelle qu'il y a une utilisation de la voiture qui pose de vrais problèmes d'émissions des gaz à effet de serre, de pollution. Et enfin, on a des problèmes pour les transports qui coûtent une fortune parce que c'est un coût considérable pour chacun, chacune aujourd'hui. Hein.
Alors, on a compris déjà un des grands axes, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de transport, reste à savoir lesquels. Et j'ai tendance à me heurter en disant, mais attention, la gratuité des transports, d'abord, ça coûte cher. Est-ce que ça coûte cher, la gratuité des transports en commun? C'est première réaction.
Alors, d'abord, sur cette question-là, il faut comprendre que la voiture individuelle, elle coûte cher à tout le monde, pas seulement à celui ou celle qui l'utilise. Elle coûte cher à la société. Hein. Il y a des études qui ont été faites qui disent que chaque voiture qui circule, elle coûte 1 600 euros par an à la collectivité, par l'entretien des routes, par les dégradations que ça procure, enfin, etc., etc., que ça produit, etc., etc. Et donc, faut commencer par dire ça, c'est-à-dire que la voiture, déjà, elle coûte aux impôts locaux, tout ça. Bon. Les transports en commun, eux, il faut comprendre que tous les transports, que ce soit les transports en commun de ville, d'agglomération, moi j'habite à Rouen et on milite pour la gratuité des transports en commun sur l'agglomération de Rouen, mais y compris dans les zones rurales, hein, les bus qui vont d'une ville à l'autre, sont entièrement financés du point de vue des investissements par la collectivité. C'est-à-dire que l'achat du matériel dans une ville de tram, dans une zone rurale de bus, est entièrement assumé par la collectivité. Ensuite, on a le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, c'est un budget qui est, en gros, il y a trois tiers. Hein. Il y a deux gros tiers qui font 40% chacun, c'est les impôts locaux et partout où elle est demandée, la taxe versement mobilité, qui est une taxe versée par les entreprises de plus de 10 salariés. Donc ça, c'est 40% chacun. Et la billetterie, c'est que 20%. Donc en réalité, les transports en commun sont déjà financés par la collectivité à 80% quand vous payez votre billet. Quoi. Oui, et donc on est en train de discuter de choses assez minimes par rapport au coût global des transports.
Oui, puisque moi, je pensais bêtement que c'était la billetterie qui me venait en premier à l'esprit. Et d'un point de vue comptable, ce n'est pas le cas.
Ah, ce n'est pas du tout le cas. Je répète, hein, tout ce qui est acheté est intégralement payé par les impôts locaux. Et ensuite, dans le budget de fonctionnement, la billetterie en moyenne nationale, c'est 20%. Mais dans certains endroits, c'est encore moins que 20%. Il y a des villes où c'est 10 ou 15%. C'est quasiment rien, la billetterie. Et donc, quand on discute de la gratuité, on discute de sommes qui ne sont pas colossales au regard de toutes les dépenses. Hein. C'est...
Oui, il faut comparer aussi ce qu'on dépense par ailleurs. Comparons ce qui est comparable. Et tu l'as bien expliqué tout à l'heure, la voiture coûte cher. Non seulement au propriétaire de la voiture, mais à la collectivité.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, il y avait parmi les arguments pour dire que ça pouvait être dangereux, alors, tu as répondu sur le premier, c'est la question des sous, en fait. Il y a un inconvénient qui vient de temps en temps sur la table, mais pas tout le temps, c'est celui du développement de la délinquance. Est-ce que ça attire la roue, cet argument-là ?
Alors, il y a aujourd'hui, on pourra en reparler après, une quarantaine de villes dans lesquelles la gratuité est instaurée, certaines depuis 20 ans. Donc on commence à avoir et des villes de taille très différente, c'est-à-dire des villes de 20-30 000 habitants jusqu'à... Aujourd'hui, c'est Montpellier qui est la ville la plus importante. Hein, c'est 600-700 000. L'agglomération, 600-700 000 habitants. La prochaine, qui va être encore un peu plus grande, c'est une communauté de communes dans le nord de la France en janvier prochain. Donc on commence, et il y a des villes, je sais pas, par exemple Châteauroux, 100 000 habitants, c'est gratuit depuis 20 ans, etc., etc. Et on a fait des enquêtes. Et on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il y a de la dégradation. Je ne vais pas dire qu'il n'y a plus d'incivilité, parce que ça n'existe pas des sociétés parfaites où personne ne fait de bêtises, ça n'existe pas. Mais pour autant, il n'y a absolument pas cet effet-là. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, alors je ne sais pas comment c'est chez vous, moi je sais que dans une ville comme Rouen, quand les contrôles sont faits, c'est 10 contrôleurs qui tombent sur un tram, parfois avec la police, c'est un niveau de tension absolument considérable, qui cible principalement les jeunes, de milieux populaires, hein, se comprendront. Bon, tout ça crée des tensions colossales. Bon, alors que quand les transports sont gratuits, ça disparaît, premièrement. Et puis il y a un autre phénomène qui se produit, c'est que la population à l'intérieur des transports change. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes âgées, plus de familles, et l'ambiance dans les transports n'est plus la même. Bon. Et il faut avoir été dans une ville où les transports sont gratuits pour se rendre compte de ce phénomène qui est un phénomène qui fait qu'il n'y a pas plus d'incivilité, c'est plus tranquille, quoi. Et les salariés qui travaillent dans ces entreprises, c'est-à-dire les chauffeurs de bus, de tram, etc., qui souvent ont peur, quand la gratuité s'installe, de ça, d'être confrontés à des problèmes, s'aperçoivent que ce n'est pas du tout la question qui se pose, quoi. Et au contraire, c'est plus tranquille. En réalité, au contraire, c'est plus tranquille.
Alors, donc, deux questions que je viens de poser sur les inconvénients imaginés. Ça coûte cher, tu as répondu. La délinquance, non, ça ne crée pas de phénomène de délinquance particulier. Ce serait même en tendance un peu plus. Ce serait même un peu le contraire. Alors, je vais en venir sur les avantages. Alors, les avantages par rapport aux utilisateurs, tu l'as commencé à le dire un peu. Est-ce qu'on a des utilisateurs nouveaux et lesquels ? Enfin, quel intérêt par rapport à la population ?
Alors,
quel mouvement il y a ?
Le vrai problème, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on s'appelle maintenant notre structure qui regroupe tous les collectifs qui militent pour la gratuité dans leur propre territoire, Union pour la gratuité et le développement des transports. Parce qu'en gros, c'est pas la seule gratuité qui règle le problème des transports. S'il n'y a pas de bus ou s'il y a un bus deux fois par jour, c'est pas parce qu'il est gratuit que les gens vont se précipiter vers ce bus, parce qu'il répond pas aux besoins qu'ils ont. Faut que les transports répondent aux besoins réels des utilisateurs et utilisatrices. Et en conséquence, il faut qu'il y ait que la gratuité s'accompagne d'un développement des transports qui en fasse des instruments pour la vie quotidienne supérieure à la voiture individuelle, tout simplement. C'est-à-dire que quand on a des transports qui sont aussi efficaces, voire plus efficaces que la voiture individuelle et qui sont gratuits, on n'a plus aucune raison d'utiliser sa voiture. Et donc, c'est ce basculement qu'il faut arriver à opérer, c'est-à-dire à faire que l'utilisation du bus, du tram, soit plus efficace que la voiture. Et gratuit. Parce que la gratuité, en fait, c'est ce qui permet de faire le point de bascule, de dire aux automobilistes, arrêtez d'utiliser votre voiture. Alors, dans les zones rurales, c'est pas possible de dire on arrête les voitures, parce que de toute façon, il y en a toujours besoin. Mais dans les villes, on peut décider qu'il y a des zones dans lesquelles on chasse les voitures, ou on limite leur circulation. Enfin, on peut faire des choix où, en même temps, on augmente les transports, on diminue la facilité d'utilisation des voitures. Et à partir du moment où on crée cette dynamique-là, les gens se précipitent vers les transports en commun. Hein. Et ils s'y précipitent dans des proportions importantes. Hein. La ville dans laquelle la gratuité a fait exploser la fréquentation, c'est Aubagne. Aubagne, ça a augmenté de 200%.
Et réduit d'autant l'utilisation de la voiture. De presque autant.
Non, pas proportionnellement. Parce qu'il y a aussi des gens qui utilisent plus les transports alors que les autres. C'est-à-dire que parce que l'autre effet que ça a. Alors, par exemple, l'autre ville qui est importante, parce que maintenant, ça fait 4 ans où la gratuité a été instaurée avec des enquêtes, etc., c'est Dunkerque. Dunkerque, c'est une agglomération de plus de 100 et 200 000 habitants. C'est 80% d'utilisation des transports en commun en plus en l'espace de 3 ans. Là, Montpellier, la gratuité totale, alors qu'ils avaient instauré la gratuité le week-end et pour les jeunes et les personnes les plus âgées, quand ils ont mis en place la gratuité totale, c'est-à-dire sur 5 jours par semaine, puisqu'elle était déjà ailleurs gratuite, c'est 30% d'augmentation en un an. Donc il y a véritablement un... Et du coup, il faut préparer ça.
Hein. Et qui les nouveaux utilisateurs et pourquoi ils ne l'utilisaient pas avant ?
Alors, il y a, d'une part, il y a celles et ceux qui ne les utilisaient pas avant pour des questions financières. Hein. Il y a les personnes âgées particulièrement, les familles, parce que le public captif, c'est celles et ceux qui travaillent ou qui vont au lycée, qui vont à la faculté, je sais pas quoi. Bon, mais les autres, ils ont le choix, quoi. Et donc, c'est quand le transport en commun devient plus efficace. Et que la voiture, plus efficace que la voiture. Et c'est vital, ça, hein, pour nous, pour la société, de manière globale. Là, ce dont je suis en train de discuter, ce n'est pas seulement important pour les utilisateurs et utilisatrices, c'est vital pour la société. Il est vital pour la société que le nombre de voitures individuelles qui circulent diminue.
Alors j'y viens justement, c'était ma question suivante. Quels sont donc les avantages entre autres par rapport au dérèglement climatique, c'est d'abord un premier aspect.
Tout à fait. Alors, en gros, les émissions de gaz à effet de serre, je ne vais pas faire un topo là sur les émissions de gaz à effet de serre, tout le monde voit les effets que ça a. Il suffit de regarder ce qui se passe cet été dans le monde, même en France, là, les incendies, enfin bon, les émissions de gaz à effet de serre, ils ont des effets tout à fait majeurs. Or, ces émissions de gaz à effet de serre ont tendance à diminuer dans tous les secteurs, industriels, domestiques, etc., sauf les transports. Les émissions de gaz à effet de serre dans les transports continuent à augmenter, ce qui est un véritable problème parce que ça représente 30% des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Et donc, on a réellement une urgence climatique à agir sur les émissions de gaz à effet de serre dans les véhicules, individuels, la voiture individuelle. Parce que c'est un des leviers qui, aujourd'hui, continue à augmenter. Hein. Donc ça, c'est le premier, c'est une urgence absolue, par ailleurs. Hein. On n'est même plus en train de discuter de choses souhaitables. C'est des choses qui sont essentielles pour la vie dans des conditions correctes sur cette planète.
Hein. Alors, le dérèglement climatique... Un point essentiel, tu l'as dit. Est-ce qu'il y a d'autres aspects au niveau environnemental qui méritent d'être mis en avant ?
Il y a un aspect qu'on a tendance à méconnaître, c'est la pollution. C'est-à-dire le fait que les voitures émettent des polluants qui circulent dans l'atmosphère. Ces polluants forment des micro-particules qui sont dans l'atmosphère, qu'on est capable de mesurer. Hein. Il y a les particules fines de 2,5 microns, 10 microns, 0,1 microns. Enfin, bon. En gros, ces particules sont constituées de tous les polluants qui sont émis par le chauffage, mais par les voitures, les chauffages, l'industrie, l'agriculture. Bon, voilà. Et ce sont des polluants qui tuent, on estime, 40 à 50 000 personnes par an en France. Donc, c'est pas du tout, on n'est pas en train de parler de choses annexes, hein, on parle de choses tout à fait décisives. Bon. Pour ce qui concerne les voitures, la pollution, elle est liée à la fois à la combustion des gaz des moteurs à explosion, que ce soit l'essence ou le diesel, mais aussi aux freins et aux pneus. Il faut savoir qu'une voiture moyenne pollue autant par la dégradation des pneus et des freins que par son pot d'échappement. Sachant que les produits qui sont émis par les plaquettes de frein et les pneus, sont des produits qui sont des mélanges extrêmement complexes, de métaux lourds, etc., et qui sont extrêmement dangereux. Hein. Et par exemple, les voitures électriques sont des voitures qui continuent à émettre, au-delà du fait qu'il faut les fabriquer, les problèmes des accus, etc. Mais quand elles circulent, la voiture électrique produit au moins la moitié des émissions de polluants qu'une voiture normale. Souvent plus parce qu'elle est plus lourde. Et donc, une voiture plus lourde, bah, use plus de pneus, a plus de production de pollution par les freins. Mais on a tendance à occulter ça. Alors, évidemment, les concentrations sont plus fortes dans les villes, mais dans les villes où il y a des mesures d'atmosphère, c'est assez terrible, hein, de voir la différence de présence de gaz toxique, de produits toxiques, pardon, de NOx ou de particules fines et les quand de jour, par exemple sur la ville de Rouen ou même la région entre Rouen et Le Havre, il y a des mesures très très précises qui sont faites et on voit les points principaux de circulation en termes de mesures, quoi. Et les gens qui habitent à côté de ces espaces-là sont des gens qui risquent leur vie réellement, quoi, hein. Et donc, mais globalement, le niveau... Par exemple, sur un département comme celui dans lequel j'habite, le niveau de pollution des particules, les particules les PM10, PM2.5, qui sont des particules fines, qui sont des agrégats tous ces éléments de pollution, globalement, sur tout le département, ils sont au-delà des normes. Enfin, ce que ça veut dire une norme, c'est toujours très relatif. C'est un moment où on décide que tel taux de pollution est dangereux, puis 50 ans ou 20 ans après, on s'aperçoit que c'est pas ce seuil-là, il est plus bas, etc. Mais ça veut dire que ça occupe tout l'espace rural, enfin semi-rural, autour des grandes agglomérations. Donc c'est un problème qui concerne beaucoup de monde.
Alors, on a vu sur la question de la pollution, du réchauffement climatique, on a vu que ça amenait des utilisateurs nouveaux, donc des gens qui peuvent prendre les transports en commun, qui ne les prenaient pas avant. Tu as commencé à donner des chiffres, mais la tendance par rapport à cette idée, tu as parlé de 40 villes de France tout à l'heure. Et est-ce qu'on a une tendance intéressante? Est-ce qu'on peut déjà tirer des bilans sur le long terme? Est-ce qu'il faut encourager par rapport au fait qu'on a déjà la démonstration des aspects positifs et quasiment pas d'aspects négatifs, en fait, ou peut-être même pas du tout?
Là, on est dans une phase d'augmentation régulière du nombre de villes dans lesquelles la gratuité est instaurée. Hein. Il y a une quarantaine de villes aujourd'hui en France, mais il y en a aussi pas. Il y a Belgrade, il y a, je sais pas, Tallinn en Estonie. Enfin, et dans le monde entier, il y a des villes en Chine, il y a des parties de villes aux États-Unis. Il y a des, enfin bon, voilà, c'est une tendance qui est minoritaire, hein, bien sûr, mais enfin qui est pas du tout marginale, qui concerne maintenant des villes de grande importance. Hein. Sachant que plus la ville est grande, plus les problèmes sont complexes à régler. Hein. Parce que Ce que j'expliquais sur l'augmentation des utilisateurs, ça veut dire qu'il faut que ce soit préparé. C'est pas vrai qu'un système peut absorber 30% de personnes en plus comme ça, quoi. Hein. Donc, il faut absolument que soit associée à l'instauration de la gratuité une conception des transports qui en font des éléments très faciles à utiliser, quoi. Bon, et donc, dans toutes les villes où ça se produit, on a les mêmes processus, hein, d'extension des utilisateurs, de détente dans les transports et de diminution de voitures, tout simplement. Bon, alors, après, les mesures sont toujours très compliquées à faire, parce que... Mais par exemple, à Dunkerque, ils ont supprimé des parkings au centre-ville, tout simplement. Voilà. Et ils ont remplacé tout ça par des zones piétonnes, des pistes cyclables, parce que dans les villes, on peut utiliser facilement le vélo quand on fait des petits déplacements et qu'on est en bonne santé. Bon, et l'association de tout ça change complètement la ville, quoi. Et c'est une relation, comment dire là ? Il y a dans cette idée-là l'idée que le transport, ce n'est pas un élément marchand, c'est un élément essentiel pour la vie et que la société se donne les moyens de permettre à tout le monde. Parce que, en plus, très fréquemment, celles et ceux qui habitent les plus loin des lieux de travail, des lieux d'enseignement, etc., c'est ceux qui ont moins de fric. Hein. C'est les gens qui sont... Parce que ce qui est important de savoir aujourd'hui, par exemple, c'est que... La distance moyenne parcourue pour la vie quotidienne, pour les activités de travail, etc., en 50 ans a doublé. Le temps passé dans les transports est resté à peu près le même, mais les distances ont augmenté à cause de la voiture individuelle, hein, tout simplement, et donc l'extension des villes, etc. Et c'est celles et ceux qui ont le moins de fric qui habitent dans les zones qui sont les plus écartées. Et du coup, la question pour elles et eux d'avoir un accès libre est une question centrale, vitale.
Et est-ce qu'on peut voir un peu ce que ça peut donner dans le domaine rural ? C'est-à-dire que dans notre région, bon, il y a des transports en commun qui sont certes insuffisants et on se sent quasiment tous obligés d'utiliser notre bagnole pour aller à Montauban, enfin disons dans les grandes villes du coin. On a des exemples aussi par rapport à la vie et au développement interurbain, c'est la question que je pose.
Alors c'est en train, là on va voir, parce que quand je dis le collectif national, enfin la structure nationale du GDT, quand il y a une zone qui se met en gratuité, on y va. On va voir, parce que c'est une façon de comprendre les problèmes et puis voir comment ils ont été ou pas résolus d'ailleurs, parce que tout n'est pas parfait. Mais la zone qui va rentrer en gratuité, c'est la zone autour de Hénin, Hénin-Beaumont, Lens, etc. C'est une grande zone qui est avec des parties urbaines et des parties moins densément peuplées. Bon, il est clair que notre idée, c'est que... Parce qu'après, est-ce qu'on est pour que tous les transports soient gratuits ? Est-ce que pour aller en vacances, il faut que les transports soient gratuits ? Ça, c'est une autre discussion dans laquelle notre collectif en tant que tel ne rentre pas, parce qu'on ne peut pas régler tous les problèmes et aborder tous les problèmes. Notre idée, c'est que doivent être gratuits les transports du quotidien. C'est-à-dire celles et ceux dont les habitantes et les habitants ont besoin pour vivre. Voilà. Et donc, dans les communes rurales, il est évident que si on veut aller à Montauban sans avoir besoin de sa voiture, il faut qu'il y ait des transports simples, faciles d'utilisation, avec une fréquence suffisante pour que ce soit beaucoup plus commode d'aller à Montauban, voire aller à Toulouse, de prendre soit un train, soit un bus qui vous y mène dans un délai correspondant à celui qu'on va avoir avec la voiture et puis qu'il faut se stationner, et puis etc. etc. Et si on met en place des systèmes comme ça, ils sont utilisés très rapidement. Et donc, c'est vraiment les transports du quotidien avec une fréquence d'utilisation qui fait que on n'a pas à prévoir deux jours à l'avance à quel moment on va y aller, quoi. Il faut que ce soit facile toutes les heures, aux heures de pointe, enfin bon, des choses assez simples. Mais on sait faire ça, hein, on sait faire. C'est un choix politique de la communauté qui dirige les transports.
Alors c'est un choix politique, ça se fait déjà de façon, on peut dire, non marginale, hein, puisque là, tu l'as dit, 40 villes de France, c'est pas ridicule, il y a des grandes villes dans d'autres pays étrangers. Est-ce qu'on peut, pour finir sur cette interview, dire que ce principe de la gratuité des transports, on devrait le raisonner comme un peu comme on raisonne sur le principe de la gratuité des soins, par exemple, sur la santé. Bien que c'est peut-être le mauvais exemple, puisqu'il est particulièrement malmené, ce principe de la gratuité pour la santé, mais en tout cas dans la volonté de beaucoup de nos concitoyens de l'obtenir. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut aborder la question ?
C'est comme ça que nous, on aborde la question. C'est-à-dire qu'on se dit que l'école, le jour où on a décidé que l'école serait gratuite, c'est des investissements qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de discuter, hein. C'est des investissements colossaux. Mais on a pensé que c'était important dans la société que l'école serait gratuite. De la même manière pour la santé. Mais ça peut concerner d'autres choses. Hein. Ça peut concerner les musées, ça peut concerner les premiers mètres cubes d'eau. On peut discuter de beaucoup d'autres choses. Tous les éléments qui sont vitaux pour la société. Bon. Mais il faut faire des choix politiques. Et les choix politiques, là, par exemple, j'ai expliqué tout à l'heure que la taxe versement mobilité qui est payée par les entreprises est une taxe qui assure à peu près 40% du budget de fonctionnement en moyenne nationale. Mais il faut savoir que dans nombre de territoires, les dirigeants politiques, soit des communautés de communes, soit des régions, soit même de certaines villes, n'exigent pas des entreprises le paiement de ce versement mobilité. Bon. Et si on se met à discuter, par exemple, de trains régionaux, comme il y a eu des grandes annonces qui ont été faites par Macron, des grandes annonces qui ont été suivies d'aucun budget. Ce qui est fantastique, c'est on dit il faut mettre ça en place, mais qui paye là pour le coup bon, mais une des solutions, c'est bien sûr des choix politiques, et puis aussi des choix politiques au sens des impôts locaux, où est-ce qu'on met l'argent, qu'est-ce qui est le plus important, et aussi de faire payer aux entreprises leur part. Et on s'aperçoit qu'en France aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des territoires qui ne demandent pas aux entreprises la taxe en question. Hein. Bon, qui est évidemment de la folie. Parce que les gens, celles et ceux qui vont travailler, ils ont...
Et là où ça se paye, enfin là où elle est réclamée, cette taxe mobilité, est-ce qu'elle a des impacts négatifs sur les entreprises par rapport à sa taille ? Est-ce que ça pèse dans le paiement de la taxe mobilité ?
En réalité, c'est assez étonnant. Dans les villes où on est allé voir la gratuité en fonctionnement, on n'a jamais eu de truc de la chambre de commerce ou la chambre ou des patrons locaux contre ça. Parce qu'en vrai, les patrons, ils ont aussi besoin de gens qui viennent bosser et de gens qui n'ont pas de contraintes. Parce que, par exemple, je me souviens des discussions à Châteauroux, les zones industrielles étaient placées de telle manière que si tu n'as pas de bagnole, tu ne peux pas aller bosser. Et quand tu as des transports en commun qui se mettent à fonctionner, bah, ils peuvent embaucher plus facilement des gens. Et ils comprennent ça rapidement, quoi. Et ce n'est pas des coûts... si vous voulez, aujourd'hui, la taxe versement mobilité la plus élevée qui peut être, comment dirais-je, exigée, c'est en France, de manière globale, c'est 2%. À Paris, c'est 3,2%. À Paris, intramuros, c'est 3,2% de la masse salariale. Hein. Bon, mais tout ça, c'est des sommes qui sont importantes pour les transports, mais pour les entreprises, quand toutes les entreprises les payent, c'est pas vraiment... Et c'est les entreprises de plus de 10, hein, donc c'est à partir de 11 salariés. Donc c'est pas le petit artisan qui a payé ça. Donc je crois que là, ça veut dire que les collectivités, quand elles mettent en place la gratuité, il faut qu'elles fassent des choix radicaux. En fait, il faut décider à un moment que la question des transports est une question essentielle et qu'on prend, on se donne les moyens de la régler. On se donne les moyens de la régler. Et bon, moi, je suis convaincu que dans les zones rurales, alors dans les villes, ça nécessite un développement des transports. Pour donner un ordre de grandeur, je vais vous donner un chiffre que ça illustre bien les choses. Ce sont les chiffres qui sont annoncés par Montpellier, qui est aujourd'hui la métropole dans laquelle la plus grande en France où la gratuité a été instaurée. Hein. Pour vous, vous allez comprendre avec les chiffres que je vais vous donner les ordres de grandeur. La billetterie annoncée par la communauté de l'agglomération de Montpellier, c'est 30 à 35 millions par an. Hein. Les investissements pour le développement des transports sur 3 ans, c'est 1 milliard. C'est 10 fois plus. Hein, c'est une ligne de tram, une prolongation de ligne de tram, 5 lignes de bus, etc., etc. C'est-à-dire que le développement, il coûte 10 fois plus cher que, par an que la billetterie. Ça veut dire que le choix... Qui va critiquer le fait qu'on développe les transports ? Personne. Donc la question du prix après des billets, de la billetterie, c'est un complément de choix radicaux sur le développement. Et donc, c'est quand on prend les questions de cette manière-là qu'on résout les problèmes des transports et qu'on change la vie des gens. Parce que c'est un autre aspect. Hein. Il y a un aspect pour le portefeuille, hein, c'est évident. Moi, par exemple, à Rouen, on distribue des tracts, on fait signer des pétitions, etc. Le samedi, souvent, parce que c'est... Et le samedi, le transport sont gratuits dans l'agglomération. Et régulièrement, on rencontre des gens qui nous disent qu'ils ne viennent en ville que le samedi, parce que c'est gratuit le samedi. Hein. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer, surtout quand ils ont des enfants, etc. Des transports comme ça à la demande. Avec un système, en plus, où... Les plus pauvres sont ceux qui n'utilisent pas forcément les systèmes mis en place pour que les transports soient moins chers. Parce que il y a des abonnements hein, qui sont pas chers, mais qui sont quand même assez chers. Et du coup, celles et ceux qui n'ont pas trop les moyens, bah, ils prennent pas les abonnements en question, même s'ils sont intéressants. Mais du coup, quand ils utilisent les transports, ils payent le tarif plein, quoi. Bon. Et on a vraiment... Enfin, quand on conçoit la question des transports de manière globale, on change la vie quotidienne de millions de personnes. Hein. C'est vraiment.
On peut dire que ça va être le mot de la fin, changer la vie quotidienne de millions de gens dans le bon sens et en réglant en même temps les problèmes de dérèglement climatique et de pollution.
Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup.
Et voilà, je crois qu'on a bien fait le tour de la question sans être trop compliqué dans les explications. Je remercie donc Patrick et on se revoit la semaine prochaine. Enfin, on se verra pas, on se verra, on s'écoutera sans doute. Et on parlera la semaine prochaine de cette rentrée sociale ou plutôt particulièrement antisociale. À bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bien sûr. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.